Bonjour, c'est bien ici la bibliothèque municipale?
Oui, monsieur, c'est ici.
Wow, c'est beau, hein? C'est super bien décoré, c'est vraiment beau, ouais.
Est-ce que je peux vous aider?
Ah ben vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, ben je peux de ça à personne.
C'est pour ça
que
je dis jamais rien. C'est un vrai piège à con cette histoire-là. En plus, je sais pas lire.
Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Délivrez-vous, votre rendez-vous mensuel sur Principe Actif, en compagnie des bibliothécaires du sud de l'Eure. Nous sommes 5 aujourd'hui pour vous présenter nos coups de cœur. Dans l'équipe, on retrouve Amélie,
bibliothèque de Breteuil,
Priscille,
bibliothèque de Breteuil aussi,
Anne-Marie,
bibliothèque de Danville, commune nouvelle de Ménil-sur-Iton,
Pauline, de la bibliothèque de Verneuil.
Et toi, Sandrine, tu viens d'où ?
De Bourthe. Et à la technique, nous avons JC.
Salut à vous.
Pour cette première, nous vous emmenons en voyage.
Je vous propose de commencer avec Priscille.
Je vais vous présenter aujourd'hui un livre que je n'ai pas encore eu le temps de finir, mais je me suis dit que c'était pas possible de pas vous le présenter aujourd'hui parce qu'il m'a vraiment surprise. C'est un livre de Franz-Olivier Gisbert qui est sorti il y a déjà 2 ans, L'arracheuse de dents. Franz-Olivier Gisbert est journaliste et il avait déjà écrit un livre qui s'appelait La cuisinière d'Himmler et on s'était dit oh là là, on avait toute la vie d'Himmler en fait qui ressortait et là c'est un peu le même principe. Cette fois-ci c'est le portrait d'une femme, mais alors une femme vraiment truculente comme on peut dire et comme on n'en fait pas. Et c'est en plein cœur de l'histoire du monde finalement puisque ça commence en France à la Révolution. Et on la suit dans toute la conquête de l'Ouest après, avec des petits passages où elle décrit Robespierre ou Custer, le général. C'est hallucinant. On se demande d'ailleurs si c'est vraiment vrai cette histoire ou si c'est complètement inventé. On a vraiment envie que ce soit vrai parce que c'est vraiment une femme... qui nous fait rire, qui va bien plus loin que la plupart des hommes. Et c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, du coup, je vais vous en lire le début. Heureux ceux qui savent s'ils sont un homme ou une femme. Moi, je l'ignore et je m'en contrefiche. Je pisse debout comme un mâle, j'adore la gnôle et je m'énerve vite au point que l'an dernier, j'ai tué un malheureux qui, à la sortie d'un bar, m'avait traité de vieux fou. Je lui étais rentré dedans. Ce sont des choses qui arrivent. Après que je me suis fut excusée, il m'a regardé avec un air pas commode, puis il a répété « Vieux fou, fils de pute, morceau de merde !» Et il ne m'a pas donné le choix. J'ai sorti mon flingue et tiré dans le tas. C'était le cas de le dire, vu son bedon. L'homme a chancelé et s'est adossé au mur du bar avec une expression que j'ai détestée. Un mélange de haine et de mépris et de menaces. Il a gargouillé des mots humides que je n'ai pas compris, mais qui n'étaient sans doute pas sympathiques à mon endroit. Alors, j'ai visé la poitrine et il est tombé à la renverse dans une flaque de boue. « Connard !» ai-je dit en tournant les talons. J'ai regretté mon geste. Si ce tocard m'avait simplement traité de vieille peau, je lui aurais sans doute laissé la vie. Dès lors qu'elles sont au féminin, les insultes me semblent moins infamantes. Même si je ne correspond pas tout le temps à cette définition. J'aime l'idée d'être ce que je suis. Une femme. Une femme aimante. J'ai connu toutes sortes d'hommes dans ma vie. Des beaux, des riches, des rêveurs, des puissants, des crétins. Je n'ai jamais essayé de les garder. Je comprends que les mâles de la création aient du mal à suivre leur engin, qui a toujours la bougeotte et réfléchit à leur place. Je fus pareil. Si vous prenez tous les jours le même dessert, vous en aurez vite assez. Même si c'est du riz au lait, mon préféré, popularisé par Saint-Louis. Un homme qui avait du nez dans tous les domaines. L'amour, c'est comme le riz au lait. Pour ne jamais s'en lasser, il faut changer tout le temps de parfum. Caramel, fraise fraîche, jus d'érelle, confiture de mûre ou sirop d'érable. On a l'embarras du choix. Rien ne sert d'avaler toujours les mêmes plats. C'est cette volonté de renouvellement qui a fait de moi une femme à homme jusqu'à ce que mon corps commence à horrifier mes amants, qui n'acceptèrent alors de me chevaucher qu'à condition de n'en rien voir. Toute lumière fermée. Alors,
tout le roman est sur ce ton-là ?
Tout le roman est sur ce ton-là.
Ça donne
envie. Et elle décrit Robespierre, Custer, enfin voilà, tous ces grands personnages de cette manière-là. Alors, est-ce que c'était vraiment leur caractère ou pas ? Mais c'est avec ce point de vue qui sort de l'ordinaire qui est tiré tout le roman. Quoi. Et c'est... On ne peut pas rester sans lire la suite, finalement.
Deux, trois petits éléments peut-être sur ce livre. Il est tout frais, il sort récemment.
Il est sorti
c'est un
il y a
vieux
deux
livre.
Ans, deux ans. Déjà. Après, voilà, il était dans nos rayons depuis tout ce temps-là et je m'étais dit, tiens, j'aime bien les romans historiques et je me suis dit, celui-là, je sais qu'il avait eu pas mal de succès, donc j'ai voulu tenter. Franchement, je suis pas déçue.
Très bien, j'imagine qu'on peut le retrouver dans
On
les rayons.
On peut le retrouver dans les rayons de la médiathèque de Breteuil et certainement dans plein d'autres.
Dans celle de Verneuil aussi, j'ai vérifié.
C'est ça, voilà. Chacune est en train de se... Hey, du coup, on se partage aussi les bons plans, alors là, autour
Exactement.
De la table. Eh ben, c'est une riche idée. Un morceau de musique, je crois, qui avait été choisi pour sortir de cette première chronique littéraire, Iggy Pop.
Tout à fait. Un petit voyage à l'américaine.
Alive.
Je précise donc que le livre qui vient d'être présenté est le roman de Franz-Olivier Gisbert, L'arracheuse de dents, édité chez Gallimard.
Oh, et je... C'est dingue, t'aimes pas lire? T'as pas lu Proust? Oh là là, je te crois pas.
Et c'est Pauline qui va vous présenter le prochain roman, un roman jeunesse pour continuer le voyage en road trip en Italie.
Merci Priscille. Alors, en effet, mon roman s'appelle Voyage à Troyes. Et il a été écrit par Déborah Gambetta. Donc je vais vous faire un petit résumé pour mettre l'eau à la bouche. Ça se passe donc en Italie. Et l'année scolaire vient de se terminer, les examens sont passés. Et Alex, le narrateur du livre, 18 ans, un jeune Italien, s'apprête à débuter ses vacances. Seul ombre au tableau, sa copine vient de le larguer. Pas de peau quand même pour commencer des vacances. Sur un coup de tête, il décide donc de traverser la moitié du pays, puisqu'elle est partie dans le sud de l'Italie en vacances avec sa famille. Et il embarque avec lui ses deux copains, Becco et Léo. Et là, c'est parti pour un road trip ensoleillé, musical et révélateur.
Mais il va traverser tout le pays pour voir son ex ?
Eh oui. On peut croire qu'on se dit « Oh, il aurait pu l'appeler, c'était moins cher, c'était plus rapide. » Mais on est en 1997. Et il y a beaucoup moins de téléphones portables en circulation, pas de Facebook, pas de Twitter et compagnie. C'est donc une plongée nostalgique dans la fin des années 90. Une société pour moi un peu plus insouciante et ultra moins connectée. Et puis en plus, s'il y avait eu les portables, le roman n'aurait pas fait 220 pages et on n'aurait pas eu toutes ces descriptions de paysages italiens. En effet, on part de Bologne, dans le nord de l'Italie, on descend sur les plages de Rimini, on longe la côte de Titano jusqu'à Pescara pour arriver finalement à Gallipoli, excusez-moi, dans la région des Pouilles.
Donc l'histoire tourne principalement autour de ces trois personnages.
C'est ça. Il y a donc Alex, 18 ans, le narrateur. C'est un jeune romantique, rêveur, mais quand même un peu plus pragmatique que ses deux copains. Puisque au départ, tout ce qu'il voulait faire, c'était prendre le train, descendre, retrouver sa copine et revenir. Histoire quoi, de 2 jours. Et puis là, s'en mêlent Becco et Léo, et les 2 jours se transforment en 5. Donc ensuite, il y a Becco, l'intello de service, qui est un passionné de poésie, féru de littérature. Et enfin, donc Léo, qui lui, c'est le tombeur, il enchaîne les filles. Et il est pourri gâté aussi par ses parents. Son père lui prête même sa magnifique Mercedes pour faire le voyage.
Mais dis donc, il ne serait pas un peu trop stéréotypé, tes personnages ?
Alors si, au départ, on peut se dire ça, en effet. Mais comme souvent, les road trips, ça permet d'apprendre à se connaître, de se révéler et de faire justement voler en éclats tous ces stéréotypes. Alors c'est le cas pour les lecteurs, mais aussi pour les personnages eux-mêmes. Puisque les trois copains se connaissent uniquement au lycée, dans le cadre scolaire, donc uniquement en surface. Et à travers ces aventures, ils vont apprendre à se connaître beaucoup mieux. Ils vont davantage se parler, et je pense que c'est compliqué pour notamment des jeunes garçons de se parler, et d'aborder des sujets délicats et plus profonds. Et c'est ce que transcrit très bien l'auteur. Donc là, au début du voyage, ils sont juste des copains, et à la fin, ils deviennent de véritables amis.
Oui, donc c'est presque un récit initiatique au final.
On peut dire ça, oui, t'as raison. Ils ont tous les trois 18 ans, ça, après tout, c'est que des adolescents. Mais ils s'approchent quand même de l'âge adulte. Et l'auteur aborde de nombreux thèmes comme le divorce, la déception, le travail, la peur de l'avenir. Et en réalité, chacun des trois adolescents a une bonne raison de fuir, de partir pour ce voyage. Donc on peut dire que c'est la fin de l'enfance et de l'insouciance. Voilà.
Justement, et l'auteur ?
Alors l'auteur, c'est donc, si vous avez bien suivi, Déborah Gambetta, qui est évidemment une Italienne. Elle est avant tout journaliste, c'est son unique roman qui a été publié en 1998 en Italie et en 2002 en France, chez Gallimard, dans la collection Scripto. Et petit message personnel à Gallimard d'ailleurs, il semblerait qu'en 2002 ils avaient peu de moyens et surtout pas les moyens d'avoir des correcteurs. Parce que dans le texte on retrouve beaucoup de fautes d'orthographe assez flagrantes. Par exemple, des accents qui manquent au-dessus des A. Donc voilà, personnellement, j'en ai trouvé 7. Si vous faites mieux, je vous offre des bonbons.
Tu as parlé de musique au début, disant que c'était un road trip musical. Pourquoi ?
Alors, parce que c'est donc un road trip en voiture. Et ce voyage se fait au son de l'autoradio. Donc, on découvre des musiciens italiens, comme par exemple Samuel Bersani, Renato Zero ou Liftida. Mais il y a aussi évidemment des groupes internationaux comme les Beatles, U2, Nirvana. Et j'ai trouvé que ces références de chansons nous donnaient du réalisme au texte. Et on sait l'importance de la musique à l'adolescence.
Ah bon, alors donc c'est un roman pour aller adolescent, mais à partir de quel âge ?
Alors je le conseillerais à partir de 15 ans et à travers tout le lycée. C'est un roman qui se lit très bien, il est assez fin, la langue est simple. Pour rassurer les parents, contrairement au livre de Priscille, il n'y a ni gros mots, pas de sexe, pas de violence. Donc on peut y aller tranquillement. C'est un roman donc très sympa qui sent bon l'été, le soleil, la plage, le sable fin. Et pour conclure d'ailleurs, je vous propose de vous lire un extrait. Alors on imagine qu'on est à la plage, sur une plage italienne. Fermez les yeux, le soleil est sur vous, vous venez tout juste de sortir de l'eau, vous allongez sur le sable. Ensuite nous sommes allongés au bord de la mer et j'avoue que ce n'était pas désagréable. Elle n'est pas si mal que ça, la mer à Rimini, en pleine saison. Il suffit de la regarder d'un autre point de vue. Comme ça, les yeux fermés. Certaines choses semblent plus profondes et plus lentes. Comme si elles naissaient de l'intérieur. Le ressac des vagues, par exemple. Ou la réverbération des pas des gens sur le sable. D'autres choses, au contraire, sont lointaines et confuses. Comme les voix, le vacarme, qui devient de plus en plus vague, qui deviennent un vague murmure. Et puis il y a d'autres choses, celles qu'on sent avec sa peau par exemple, qui sont nettes, définies, absolues. Le soleil qui sèche les gouttes sur le corps et semble presque les absorber une par une. Ou la brise, solide, compacte quand elle s'infiltre entre les cheveux mouillés, pénètre dans les oreilles et les fait siffler. Je me sens si bien que je m'endors. Voici donc, c'était un extrait de Voyage à Trois par Deborah Gambetta, publié chez Gallimard. Alors, je vous ai parlé de musique, je vous propose donc de découvrir un groupe qui est cité dans le roman. C'est Liftida, et le titre, excusez-moi pour mon italien, c'est Regina di Cuori.
Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella, regina di cuori, ti vesto di fiori, ti giuro l'amore, ma non è terra fedeltà. Mami, non mami, ma mami, o forse sì. Succede un finimondo, perché l'amore amaro è un mare meraviglioso e mentale, e il cuore ha una crotonce in gola, mi lascia e poi ti lasci andare per poi ritornare.
rosa è una spina, genera spina. E vivo tra mille tentazioni e pensieri peccaminosi. Perché ogni storia è una farfalla in fasce che si trasforma, ci trasforma, altrimenti non cresce.
Donc d'écouter Liftiba, un groupe de rock italien que vous pouvez retrouver dans le roman de Deborah Gambetta, Voyage à Troyes. Vous pouvez emprunter ce roman à la bibliothèque de Verneuil et dans les autres bibliothèques sur demande également. Alors Anne-Marie, il me semble que ton roman se passe également dans le sud de l'Europe, en Italie.
Oui, plus particulièrement donc en Sicile, pour l'un des personnages, puisqu'il s'agit de la Tresse, de Laetitia Colombani, où il y a trois histoires dans trois endroits du monde. Donc, à commencer par Giulia, qui est une jeune Sicilienne, et elle travaille à l'atelier de son père, qui est à la tête d'une petite entreprise familiale qui fabrique des perruques en traitant de vrais cheveux. Quand son père a un accident, elle découvre par hasard qu'ils sont sur le point d'être saisis. Alors là, c'est une catastrophe pour la petite équipe de l'atelier. Et dans le même temps, elle rencontre Kamal, un jeune indien sikh, et ils vont vivre une passion cachée. Voilà donc pour Julia. Ensuite, il y a Smita, qui est une jeune intouchable donc d'Inde. Elle est mariée, maman d'une fillette de 6 ans et elle vit dans une cahute et son métier consiste à vider les excréments des toilettes sèches, pardon, vous êtes peut-être à table, des classes supérieures. Son mari est un homme très doux, ce qui n'est pas forcément une généralité, ils veulent que leur fille aille à l'école pour échapper à sa condition. Et cela ne se passera pas bien. Smita devra trouver une autre solution. Voilà pour le deuxième personnage. Le troisième personnage, c'est Sarah Cohen. Donc elle est avocate au Canada. Elle a 40 ans et elle est associée dans un cabinet important. Elle a même sacrifié sa vie personnelle au profit de l'ambition pour devenir justement cette associée tout en haut de la pyramide. Et un malaise en pleine plaidoirie marque le début d'une descente. Et le lien entre les trois femmes, vous l'avez peut-être deviné, c'est le cheveu. Donc c'est un premier roman magnifique. Chaque chapitre est consacré à l'un des trois personnages. Donc on en apprend un peu plus à chaque fois. Le style est touchant, bien construit et prenant. Ces trois femmes qui ne se connaissent absolument pas, mais par ces expériences de vie, donneront un nouveau sens à leur vie. Alors, un petit mot sur Laetitia Colombani. Elle est d'abord réalisatrice, actrice, scénariste. Donc elle est française et les filles. Le petit scoop, c'est que sa mère était bibliothécaire.
Ouais, c'est un très bon roman alors.
Alors en mars 2018, son roman compte 340 000 exemplaires vendus. Il sera traduit en 29 langues et il remportera de nombreux prix, à savoir le Globe de Cristal 2018 du premier roman, le Trophée littéraire 2017, parce que c'est un roman qui est paru en 2017, le prix Relais des voyageurs lecteurs, vous savez, les gens qui lisent dans les transports, le prix Ulysse et le prix l'Office central des bibliothèques. Ça fait quand même pas mal de prix à son actif.
Oui, effectivement, j'ai lu ce livre aussi et c'est vrai qu'il est très très touchant. Dis-nous peut-être un petit peu plus pourquoi le cheveu, parce que pour la femme de 40 ans et puis l'indienne, on ne sait pas trop où est ce lien finalement. Est-ce que tu veux nous en dire plus ou tu gardes le suspense?
C'est-à-dire que là, si j'en dévoile trop, ça ne vous donnera plus envie d'aller l'acheter ou de venir le chercher en bibliothèque pour le lire.
Conserve le mystère donc.
Oui. Alors, si je peux peut-être donner un petit indice, c'est que la petite fille de Smita a une longue tresse, longue dans le dos, une magnifique tresse, parce que les cheveux ne sont pas coupés comme chez nous à la naissance, on les laisse pousser.
D'où la couverture du livre.
Oui, oui, tout à fait.
Ouais. Et le titre?
La tresse, oui. C'est cette tresse,
Qui serait le lien, finalement.
Qui serait le lien, mais on l'apprend à la fin. On voit venir, quand même.
N'en dis pas plus, alors.
Pas plus, non, pour ménager le suspense.
On reste en musique pour la programmation musicale, j'imagine, Anne-Marie.
Alors, je crois que c'est Lily Cube.
Absolument. Eh bien, on écoute ça.
Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins, dans ton automobile, tous les deux on sera bien. Et dans le ciel il y aura des étoiles et du soleil quand on mettra les voiles. S'en aller tous les deux dans le sud de l'Italie. Et voir la vie en bleu, tout jouer sur un pari. Toute la nuit, danser le calypso, dans un dancing avec vue sur l'Arnaud. Au milieu de la nuit,
que j'ai présenté aujourd'hui, c'est La Tresse de Laetitia Colombani qui est aussi dans les rayons de Bourthe et Breteuil.
C'est ça.
Alors dis-moi Sandrine, pour continuer sur ce thème du voyage, où nous emmènes-tu ?
Dans la Chambre des Merveilles de Julien Sandrel. Donc c'est un sujet abordé qui n'est pas très facile. C'est un enfant dans le coma à la suite d'un accident, avec une maman désemparée bien entendu. Pourtant, c'est un roman feel good, drôle et touchant. Louis, 12 ans, a noté dans un carnet les expériences qu'il voudrait vivre avant de mourir. Thelma, sa maman quadragénaire, décide de vivre cette liste des merveilles, de lui raconter pour l'aider à sortir de cet état. Une véritable remise en question pour cette maman qui a privilégié son travail par rapport à son fils, jusqu'à ce terrible accident qui va tout remettre en cause. Elle va apprendre de ses aventures et se découvrir elle-même. C'est aussi l'histoire d'une relation duo, mère-fils, indissociable. Elle élève seule son enfant, duo qui va au fil des pages se transformer en trio. Mais alors là, il faudra lire le roman pour savoir avec qui, et c'est pas tout à fait ce que vous pensez. Les personnages de Thelma et Louis nous ramènent sans équivoque au film de Ridley Scott. Un événement tragique va bouleverser le cours de la vie des personnages. Comme le film, ce livre vous transporte au fil des pages. Je vais vous en lire un extrait. Donc là, Thelma en fait découvre le fameux carnet des merveilles. Une petite graine avait été plantée. Une idée insensée était en train de germer dans ma tête. Et une phrase repassait en boucle, telle une obsession. Louis n'est pas mort. Louis est dans le coma, mais Louis est vivant. Thelma, tout est possible. Il reste presque un mois pour se réveiller. Il va se réveiller. Le personnel médical continuait de répéter qu'il était sans doute totalement inconscient. En était-il sûr ? Non, il ne pouvait l'affirmer avec certitude. Alors, c'est qu'il y avait une possibilité qu'il m'entende, qu'il ressente. J'allais m'y accrocher. Je devais donner enfin à mon fils de revenir, le faire saliver en lui montrant tout ce qu'il était en train de manquer en restant dans le coma. Lui donner envie de vivre, c'était un projet fou mais réalisable. J'en étais convaincue. Les protagonistes ? Un sportif, Louis. Un coach ? Moi. La discipline olympique ? La sortie du coma en nage libre. La carotte ? La motivation ? Tout ce qui était noté dans le carnet. Ce carnet était un concentré de futur. Ce carnet était rempli d'expériences que Louis rêvait de vivre, de promesses de joie, de trucs cool comme il l'écrivait lui-même. Ce carnet était une promesse de vivre. Le mode opératoire, j'allais partir à la rencontre des rêves de mon fils, les vivre pour lui, les enregistrer en audio et en vidéo et les lui faire partager. J'allais en prendre l'engagement solennel. Je ne pourrais ni revenir en arrière ni le décevoir. Je ne savais pas s'il y avait un ordre défini et je ne voulais pas que tout ait l'air préfabriqué. Il faudrait donc que je découvre le programme au fur et à mesure. Le résultat escompté ? Que mon fils se dise « Merde, c'est quand même pas possible que ce soit ma darne qui fasse tout à ma place et qui l'ouvre les yeux. » J'ai frissonné. Je me suis levée et j'ai regardé le ciel. Étais-je en train de devenir folle ? L'espace de quelques instants, j'avais occulté la noirceur des nuages qui pesaient sur mon fils. Mais la nuit était lourde, l'issue insaisissable. Louis ne reviendrait peut-être jamais. Je le savais. Je me suis mise à pleurer, silencieuse, immobile. Mon obstination était sans doute absurde, mais je ne pouvais pas résoudre à laisser partir mon fils sans lui avoir permis de réaliser tous ses rêves d'enfant. Combien de temps me restait-il ? Moins d'un mois maintenant. J'avais perdu de précieuses journées. Il était plus que temps d'entamer cette course contre la montre et pour la vie. J'ai tourné la première page et découvert ce qui m'attendait. J'allais sortir de ma zone de confort, je le savais. J'étais prête pour lui et sûrement un peu pour moi.
Et donc, ça donne envie cet extrait.
T'es sûre que c'est feel good ?
Oui, c'est un franchement, ça part, voilà. C'est une maman qui s'accroche comme elle peut. Elle va vivre des moments inoubliables dans la peau d'un enfant de 12 ans en fait. Elle a 4 ans, elle a 40 ans. Donc c'est pas, voilà.
Et justement, tu trouves pas que ses rêves, parce que du coup moi je l'ai un peu lu, tu trouves pas que ses rêves sont un peu trop farfelus pour un enfant de 12 ans ? Moi je mettrais plus ça pour un enfant de 16 ans.
On va dire qu'il est mature.
En tout cas, ça pourrait plaire à des lecteurs d'autobiographie pour le coup.
Tout à fait, tout à fait. Et aussi à des jeunes. Je pense qu'on passe en adulte, mais je pense que vers 15-16 ans, on peut commencer à le lire. Y a pas de... oui. Ça ne pose pas de problème.
Il n'y a pas de difficulté majeure.
Non. Non, c'est très bien écrit, c'est fluide. Donc pour ne pas plomber l'émission, mais je vous passe quand même Grand Corps Malade, Les Voyages en train.
Je crois que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare ? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard? Les trains démarrent souvent au moment où on s'y attend le moins. Et l'histoire d'amour t'emporte sous l'œil impuissant des témoins. Les témoins, c'est tes potes qui disent au revoir sur le quai. Ils regardent le train s'éloigner avec un sourire inquiet. Toi aussi tu leur fais signe et t'imagines leurs commentaires. Certains pensent que tu te plantes et que t'as pas les pieds sur terre. Chacun y va de son pronostic sur la durée du voyage. Pour la plupart, le train va dérailler dès le premier orage. Le grand amour change forcément ton comportement. Dès le premier jour, faut bien choisir ton compartiment. Siège couloir ou contre la vitre, il faut trouver la bonne place. Tu choisis quoi, une love story de première ou de seconde classe? Dans les premiers kilomètres, tu n'as Dieu que pour son visage. Tu calcules pas derrière la fenêtre le défilé des paysages. Tu te sens vivant, tu te sens léger et tu ne vois pas passer l'heure. T'es tellement bien que t'as presque envie d'embrasser le contrôleur. Mais la magie ne dure qu'un temps et ton histoire bat de l'aile. Toi tu dis que tu n'y es pour rien et que c'est sa faute à elle. Le ronronnement du train te saoule et chaque virage t'écœure. Faut que tu te lèves, que tu marches, tu vas dégourdir le cœur. Et le train ralentit, c'est déjà la fin de ton histoire. En plus t'es comme un con, tes potes sont restés à l'autre gare. Tu dis au revoir à celle que t'appelleras désormais ton ex. Dans son agenda sur ton nom, elle va passer un coup de tipex. C'est vrai que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard? Pour beaucoup, la vie se résume à essayer de monter dans le train, à connaître ce qu'est l'amour et se découvrir plein d'entrain. Pour beaucoup, l'objectif est d'arriver à la bonne heure, pour réussir son voyage et avoir accès au bonheur. Il est facile de prendre un train, encore faut-il prendre le bon. Moi je suis monté dans 2-3 rames, mais c'était pas le bon wagon. Car les trains sont capricieux et certains sont inaccessibles. Et je ne crois pas tout le temps qu'avec la SNCF c'est possible. Il y a ceux pour qui les trains sont toujours en grève. Et leurs histoires d'amour n'existent que dans leurs rêves. Et il y a ceux qui foncent dans le premier train sans faire attention. Mais forcément ils descendront déçus à la prochaine station. Il y a celles qui flippent de s'engager parce qu'elles sont trop émotives. Pour elles c'est trop risqué de s'accrocher à la locomotive. Et il y a les aventuriers qui enchaînent voyage sur voyage. Dès qu'une histoire est terminée, ils attaquent une autre page. Moi, après mon seul vrai voyage, j'ai souffert pendant des mois. On s'est quitté d'un commun accord, mais elle était plus d'accord que moi. Depuis, je traîne sur le quai, je regarde les trains au départ. Il y a des portes qui s'ouvrent, mais dans une gare, je me sens à part. Il paraît que les voyages en train finissent mal en général. Si pour toi c'est le cas, accroche-toi et garde le moral. Car une chose est certaine, il y aura toujours un terminus. Maintenant, tu es prévenu. La prochaine fois, tu prendras le bus.
Donc c'était Grand Corps Malade, les voyages en train. Je vous rappelle le titre du livre La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel. Donc c'est son premier roman, chez Calman Lévy. On change de registre, on part sur une île avec Priscille. Amélie, pardon, excusez-moi.
C'est pas grave, il n'y a pas de souci. On est dans la même bibliothèque, donc pas facile de s'y retrouver. Donc moi, je vais vous présenter un thriller psychologique, juste après La Vague de Sandrine Collette, qui est un roman très récent puisqu'il est paru cette année en 2018 aux éditions de Noël. Donc avant de vous parler du roman, je vais vous faire juste un petit point auteur parce que certains d'entre vous la connaissent peut-être, c'est pas son premier roman. Donc Sandrine Collette est une auteure française de 48 ans. Elle est conseillère en ressources humaines et est chargée de cours à l'université Paris-Nanterre. Et donc son second passe-temps est l'écriture. Elle s'est fait connaître avec Des nœuds d'acier en 2013. Donc ce roman vous parle peut-être, ça a été un très grand succès. Le roman raconte l'histoire d'un prisonnier libéré qui se retrouve piégé et enfermé par deux frères pour devenir leur esclave. Donc on est dans quelque chose qui est de nouveau très gai, très plombant. Voilà, et donc juste après La Vague, c'est son sixième roman. Donc je vous propose de vous faire un petit résumé et de vous donner, de vous mettre l'eau à la bouche. Donc on est sur une petite île, le temps si vous voulez n'est pas vraiment défini, on ne sait pas exactement où non plus, on sait juste que ça commence d'emblée avec le premier chapitre où un flanc du volcan de l'île s'écroule et provoque un raz-de-marée qui engloutit tout sur son passage. Donc dès le départ, on est dans une atmosphère complètement apocalyptique avec pour seul décor la mer. L'île est quasiment entièrement rayée de la carte. Seule une famille qui est perchée au plus haut de l'île se trouve rescapée. Il y a le père, Pata, qui est plutôt très pragmatique. La mère Maddy, qui a un amour inconditionnel pour ses enfants. Et leurs 8 enfants, qui sont très attachants, donc une belle petite tribu. Donc cette tribu s'organise pour survivre, tout en surveillant la marée. Mais voilà, le père se rend compte que l'eau ne cesse de monter et que bientôt, ils finiront eux aussi complètement engloutis. Il retrouve alors sur l'île une petite barque échouée qui décide de retaper dans l'espoir de regagner les terres hautes pour sauver la vie de sa famille. Mais voilà, leur seul espoir et leur seule issue de secours, c'est la barque qui est trop petite et qui peut accueillir seulement 8 personnes. Donc là, il y a un énorme dilemme qui s'offre à eux deux, enfin aux parents. Soit rester soudés, tenter la traversée tous ensemble et mourir noyés. Soit sacrifier 3 membres de la famille pour réussir à sauver les autres.
De quoi passer de bonnes vacances, quoi.
Exactement. Donc si vous êtes sur une île et si vous faites du bateau, attention à vous. En bref, on est dans un récit en mer. On a une famille, une course pour la survie et des gens prêts à tout pour sauver leur peau. Voilà. Donc ce roman psychologique est vraiment très haletant. Le lecteur aussi entre angoisse et espoir tout au long du récit. L'ambiance est pesante parce qu'on s'imagine quand même le décor et les descriptions qui sont entièrement autour de l'eau et des conditions climatiques qui sont très difficiles. Et du coup, l'enjeu est exposé dès le premier chapitre, survivre, mais à quel prix ? Voilà, le style d'écriture est à la portée de tous. On peut parfois noter des phrases courtes qui peuvent nous désarçonner un petit peu, des phrases courtes sans verbe, mais qui nous permettent au fil du récit d'entrer dans les pensées en fait, des personnages. Donc c'est quand même intéressant au niveau du style de l'écriture.
Il y a des morts ?
Oui, il y a des morts. Heureusement, pas tout le monde, mais il y a des morts. Il y a une ou deux scènes qui sont un petit peu plus difficiles, qui sont un peu plus trash. Mais après, ça reste assez sobre. Après, attention aux mères de famille, hein, peut-être s'abstenir, c'est assez difficile quand même. Je vous propose un petit extrait pour vous mettre dans l'ambiance. Alors, ils étaient là, tels des chatons trempés sous la pluie, calés les uns contre les autres avec leurs regards hébétés, les yeux qui sillaient à cause des rafales de vent et des affaires chaudes. Devant eux, c'était la mer, mais pas que. Derrière, à gauche, à droite, c'était aussi la mer. En 6 jours, ils n'avaient pas eu le temps de s'habituer, mais ils avaient compris que le monde ne serait plus jamais comme avant. Ils ne disaient rien. Juste, ils se tenaient par la main tous les 11, le père, la mère et les 9 enfants, visages fouettés par le temps devenu fou, par le déluge qui ne s'arrêtait pas, ou si peu, les obligeant à se replier autour de la maison. 6 jours depuis la vague. Le raz-de-marée était arrivé et personne ne l'avait entendu. Ou si quelqu'un l'avait entendu, c'était déjà trop tard. S'ils auraient dû le prévoir ? À quoi bon se retourner ? Avait chuchoté le père. À présent que c'est fait ! Depuis, il n'avait pas vu d'âme qui vive. Pata avait dit qu'ils étaient peut-être les seuls survivants, rapport à cette fichue colline qui coupait les pattes des petits quand ils rentraient à l'école à la fin de journée. Oui, cette colline qui leur avait sauvé la vie parce qu'elle était perchée trop haut et qu'elle montait trop fort. Le village se trouvait en bas, dans la vallée où il n'y avait plus rien à voir. Cependant, à cet instant, ils se tournèrent d'un bloc vers elle, comme si la pensée leur était venue de tous ensemble. Et dans la vallée, c'était encore la mer. La vague avait déferlé sur le monde et avait tout emporté. Maisons, voitures, bêtes et humains par milliers, attrapant les chairs et les murs en béton pour les enfouir sous les lames et les courants effrayants, les écraser, les gober sans retenue. Si elle s'était retirée, les eaux auraient laissé derrière elle des champs lessivés, jonchés de corps morts et débris d'os, de métal et de verre. Mais elle n'était pas redescendue. Elle s'était installée là, envahissante et meurtrière, et depuis 6 jours, elle charriait des arbres arrachés, des poutres brisées, des cadavres au ventre gonflé, que les petits regardaient passer en essayant de les reconnaître.
Ça donne envie d'aller sur une île.
Exactement. Donc vous pouvez retrouver ce passage, pages 9 et 10 du roman. Et si vous n'êtes pas trop rebuté, que vous n'avez pas peur de l'eau, n'hésitez pas à plonger dedans et du coup à vous laisser emporter par la marée.
Tu peux nous rappeler le livre ?
Oui, Juste après la vague, de Sandrine Colette, aux éditions De Noël, un roman de 2018 qu'on peut retrouver dans les rayons de la médiathèque de Breteuil.
Et de Verneuil.
Parfait. Deux lieux où vous les procurez.
Et les librairies.
Bien sûr.
Un peu de musique du coup pour nous faire plaisir également.
On va aller avec Superbus, Travel in the World.
Félicitations à toutes, nous avons réussi notre toute première émission de radio des livres et vous. La pression retombe.
Ça va beaucoup
les filles,
mieux.
Ouais. Ça va mieux.
C'était chaud.
Il fait très chaud, mais
on
fait si chaud.
Les fenêtres, hein.
Non, bon, ça a été. Vous reviendrez donc en septembre pour une nouvelle émission.
Oui,
avec plaisir.
Avec plaisir, super. Alors, je vais vous redonner un peu la liste des livres qu'on vous a présentés aujourd'hui. Priscille vous a présenté L'arracheuse de dents de Franz-Olivier Gisbert, qui est disponible donc à Breteuil, à Verneuil, et c'est tout. Je vous ai présenté Voyage à Troyes de Déborah Gambetta, donc un roman ado qui est disponible dans la bibliothèque de Verneuil. Anne-Marie vous a présenté La Tresse de Laetitia Colombani, qui est disponible donc à Danville, à Breteuil et à Bourthe. On continue avec Amélie. Non, pas avec Amélie.
Décidément, avec... on n'y arrive pas avec nos prénoms.
Avec Sandrine et la Chambre des Merveilles de Julien Sandrel, disponible donc à Bourthe, à Breteuil et à Danville. Et on a conclu avec Amélie, cette fois, avec Juste après la vague de Sandrine Colette, disponible à Breteuil et à Verneuil.
N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par un de ces romans, à nous les demander dans n'importe quelle bibliothèque. On a un réseau qui nous permet d'en demander avec un peu de délai. Et autrement, la plupart d'entre eux sont disponibles en librairie sans aucun problème.
Donc j'espère qu'on vous a donné envie de lire cet été et surtout de venir nous voir dans nos belles bibliothèques du sud de l'Eure. Accueil chaleureux garanti. Bonne lecture à tous et rendez-vous donc en septembre.
Bisous bisous.
À bientôt.
Bon été. Au revoir.